explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Je suis prêt.
Le temps d'un bivouac!
Partout dans le monde, pour accueillir une naissance, marquer le passage à l'âge adulte, sceller une union ou encore rendre hommage aux morts, les humains ont inventé des rituels. Ces moments forts qui soudent les sociétés et donnent du sens à l'existence prennent des formes très différentes d'une culture à l'autre. L'anthropologue Anne-Sylvie Malbranck nous a donné un bel aperçu de cette diversité dans la série documentaire « Rituels du monde » diffusée sur Arte. De la fête des couleurs en Inde à la danse du feu en Papouasie Nouvelle-Guinée, en passant par le tatouage aux îles Samoa, la série était déjà très riche. Mais notre anthropologue a eu envie de compléter le récit de ses expériences et de ses rencontres avec un livre également intitulé « Rituels du monde » paru aux éditions Des Paysages. Elle y raconte les coulisses des tournages et confie les émotions et les réflexions suscitées par certaines situations. Cet après-midi, Anne-Sylvie Malbranck passe par notre bivouac pour nous raconter cette aventure humaine au cœur des autres cultures. Et en fin d'émission, comme tous les lundis, nous retrouverons Éric Birloez pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, nous nous intéresserons avec Éric aux pérégrinations d'un fruit délicieux, la figue. Voilà pour le sommaire de cette émission, préparée par Claire Tesser et réalisée par Hélène Couillou-Jean et Étienne Bertin, avec à la technique Michel Bézikian. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Les masques des hommes s'apprêtent enfin à braver le feu. Je sais que Robert est l'un d'entre eux. Est-ce lui qui danse avec un serpent? Est-ce lui qui saute dans les braises? Impossible de le savoir. Car ce soir, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que les esprits de la forêt.
Tu sais, je ressens un bonheur très particulier ce soir. Car tout ceci est notre culture, notre identité. Et je suis fier de la montrer à nos enfants.
Bonjour Anne-Sylvie Malbranck.
Bonjour.
Ce premier extrait de la série documentaire Rituels du monde nous emmène dans un pays que vous connaissez particulièrement bien, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la communauté des Baining. Comment se déroule ce rituel exactement et quel a-t-il comme fonction?
Alors c'est un rituel fascinant parce qu'il a plusieurs fonctions différentes, c'est-à-dire que la communauté va tenir le même rituel pour beaucoup d'événements différents,
ouais.
Pour marquer une initiation, pour une naissance. Là, en l'occurrence, quand on y était, c'était pour dire au revoir aux souvenirs de 5 enfants morts en bas âge. Et parfois, m'a-t-on dit, on le fait juste pour rire, comme ça, pour être ensemble, pour s'amuser. Et ça nous a frappé d'emblée, parce qu'on a tendance à se dire, nous, que les rituels sont très différents selon les fonctions qu'ils ont. Mais pour cette communauté-là, on fait toujours la même chose, même si on change en fait à chaque fois un petit peu. En tout cas, on fait des masques et on saute sur un feu.
Ouais, on saute vraiment sur un feu. C'est-à-dire que il y a aussi cette notion de douleur parce qu'ils doivent piétiner les braises, passer par-dessus les flammes.
Tout à fait, ils le font vraiment. Et ouais. Ils tiennent un serpent à bout de bras. Pour ceux qui trouvaient que c'était pas assez drôle d'être pieds nus sur un feu, voilà. L'idée, c'est quand même de montrer qu'on est plus fort que la nature et qu'on peut la dominer, mais tout en prenant un vrai risque.
Alors ces danses du feu sont, on le comprend, très spectaculaires. Ce sont des images marquantes. D'ailleurs, les enfants sont très impressionnés, les enfants qui assistent, les enfants de la communauté, et des adultes sont venus vous dire que eux-mêmes, quand ils étaient petits, étaient encore terrifiés, bien après que les feux soient éteints, ces images restaient gravées dans leur mémoire.
Oui, il y a une force hypnotique. Et en même temps, on est frappé par ces masques qui sont vraiment très très grands. Je ne sais pas si on se rend bien compte quand on regarde l'épisode, mais ces masques sont gigantesques. Ils surgissent de la nuit, ils surgissent de la forêt. On ne reconnaît même plus le mouvement de l'humain derrière. Et donc, ils sont là aussi pour instaurer une forme d'autorité, je crois, et pour pouvoir dire aux enfants, attention, comment vous allez vous comporter? Vos parents ont peut-être pas le pouvoir de vous faire peur, mais nous, oui. Et c'est ça qui est très très marquant, effectivement, pour tout le monde.
De façon plus générale, qu'est-ce qu'est un rituel pour un anthropologue?
pour moi, c'est une parenthèse qui est en décalage avec la vie normale. C'est un moment où, généralement, je transforme les codes de la vie quotidienne. On s'habille différemment, on parle différemment, on bouge différemment. Et ça permet de marquer les esprits et souvent de marquer une métamorphose, un changement d'état. Bon, les rituels, il y en a tout un tas de sortes différentes, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Mais je pense qu'ils ont tous ce point commun de marquer une rupture.
Et est-ce que toutes les sociétés ont des rituels ?
C'est une très bonne question, oui. Oui, toutes les sociétés, je pense, vont essayer de s'approprier socialement ce qui se passe naturellement. On va marquer une naissance, on va marquer une mort, on va accompagner les défunts. On va parfois marquer les saisons. Il est rare qu'on laisse à la nature le contrôle de nos vies, je pense.
Ouais. Enfin, en tout cas, on veut s'imaginer qu'on a un contrôle sur le cycle des saisons. L'a-t-on réellement ? Voilà, on laissera les croyances. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un endroit que vous connaissez tout particulièrement. Vous y avez passé 18 mois. 18 mois en tant qu'anthropologue, hein, oui. Vraiment, pour des études anthropologiques sur le terrain. Là, il s'agissait de s'immerger dans des communautés. En quoi consistait votre travail ? Comment vous vous y êtes préparé ?
Je m'y suis très mal et très peu préparée, je crois, parce que j'étais très jeune et j'avais une position universitaire qui faisait, j'ai beaucoup lu en me disant, bon, je suis à peu près au fait des problématiques anthropologiques du pays, mais quand on débarque, c'est autre chose, on ne parle pas la langue, même si on a voulu l'apprendre en amont. Ouais. On n'est pas forcément déjà habitué à vivre, à bivouaquer, de fait. Moi, je suis pas une grande campeuse, donc vivre sans eau, sans électricité comme ça, tout d'un coup, avec aucun contact avec l'extérieur, on ne s'y prépare pas. Émotionnellement, ça a été très difficile. Physiquement aussi. Ouais. Mais bon, c'est ça qui aide aussi la transformation et je pense l'immersion.
Comment on se fait accepter par la communauté qu'on choisit de rencontrer ?
Ah, c'est une très bonne question. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'être précédée par de grands anthropologues qui avaient un peu préparé le terrain et prévenu que j'allais venir. Donc on avait l'accord en amont des Barouillas, en l'occurrence, et des Guebouzis par la suite, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sinon, se faire accepter, ça passe par l'humilité, le fait d'apprendre la langue, d'apprendre à vivre comme eux, à les comprendre, leur dire qu'on est là pour écouter leurs histoires, pour savoir ce qu'ils pensent.
Vous avez, vous personnellement, je ne sais pas si tous les anthropologues font ça, mais une certaine arme qui est le rire. Vous dites, finalement, je suis assez clownesque, je ne réussis pas tout ce qu'on me demande de faire. Et en fait, ça attire énormément de sympathie, voire d'envie de protéger, parce qu'on se dit, mais cette anthropologue, elle n'arrive pas, elle ne sait pas faire. Et du coup, ça donne une envie de vous apprendre, de vous montrer, et ça fait rentrer en empathie, en fait.
C'est ça, je pense qu'embrasser le ridicule, c'est la seule façon de s'en sortir.
Il y a quelque chose d'universel dans le ridicule, peut-être.
Tout à fait, et faire rire, c'est quand même super.
Ouais.
Et rire parce qu'on fait rire. C'était les enfants et les petites mamans, surtout, qui me prenaient en affection, parce que je ne savais absolument rien faire. Nos corps d'occidentaux ne sont pas habitués, à la boue en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les montagnes, ou aller chercher son eau, faire tout un tas de choses, même à certaines danses. Et je pense que ça permettait de rééquilibrer sinon une dynamique qui, moi, me gênait, parce que j'arrive, je suis blanche avec tout ce que ça peut présumer de puissance coloniale, si vous voulez, dans certains endroits, et donc de domination. Et je suis souvent plus grande que les gens à qui je parle, ce qui me gêne aussi. Et donc, je trouve ça bien de pouvoir s'abaisser soi-même, d'être un peu ridicule. Et puis surtout, ça permet de dire, toi, apprends-moi, puisque toi, tu sais.
Alors ça, c'était cette première expérience vraiment d'anthropologue. Ensuite, ça a glissé vers cette expérience de journaliste, en fait, pour la télévision, d'aller dans une quinzaine de communautés en 15 mois pour tourner cette série documentaire. Alors là, vous êtes allé dans des pays très divers, sur quasiment tous les continents. C'est un travail différent, parce que là, il faut se faire accepter, mais sur un temps très bref, comprendre des cultures avec très peu de temps pour le faire.
Oui, c'est cela, la temporalité n'a rien à voir.
Ouais.
Il faut créer de la connivence et de la confiance avec des gens avec qui on passe que quelques jours. Et des gens qui, en plus, sont au seuil d'une expérience qui va changer leur vie. Donc, ils ont un petit peu autre chose à faire que de venir vous prendre par la main et vous montrer. Ouais. Ça a été... Oui, effectivement, assez compliqué, mais...
Et parmi ces expériences qui changent la ville, il y a par exemple, pour donner un exemple, aux îles Samoa, vous assistez à un tatouage. Alors, c'est pas n'importe quel tatouage. Là, on parle d'un tatouage qui prend une vingtaine de jours à se faire, qui va être dessiné du nombril jusqu'au bas des jambes. C'est très douloureux, et même le tatoueur est conscient de la douleur ressentie par ceux qui se font tatouer.
Parfois, certaines personnes qui viennent se faire tatouer ne sont pas préparées à la douleur. Mais moi, ma mission, c'est que, quoi qu'il arrive, à la fin, ils soient fiers de leur tatouage.
Et si jamais il abandonne, il se passe quoi ?
Il ne peut pas abandonner. C'est impensable. Ce serait une telle honte pour lui et pour notre famille. C'est pour ça que je dois l'aider. Parce que je sais ce qu'il ressent. Je suis déjà passé par là, moi aussi.
C'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans ces rituels. Il est impensable, une fois qu'on s'est engagé, de s'y soustraire, quoi qu'il en coûte, en quelque sorte. Et là, il souffre pendant 20 jours. Vous avez vous-même, Anne-Sylvie Malbranque, éprouvé la douleur du tatouage. Demandez à ce qu'on vous... Racontez comment ça se pratique, ce tatouage aux îles Samoa.
Oui, c'est un tatouage qui se fait par percussion, ouais. Et qui est propre à l'ère austronésienne. Et vous l'avez entendu d'ailleurs dans l'extrait, ouais. Ce sont donc des tapotements du maillet, et ce sont ces incisions qui permettent à l'encre de pénétrer dans la peau et ensuite au dessin d'apparaître. Donc c'est un tatouage extrêmement sanguinolent, si vous voulez, par rapport à ce que l'on pratique nous en Occident. Et ça a été très impressionnant pour moi. On arrive, on sent les pigments, on sent le sang, la sueur, la chaleur, et on voit tous ces gens qui sont en une communauté de douleur, puisqu'il faut se tenir d'une certaine façon pour avoir mal, pas autant que celui qui se fait tatouer, mais pour avoir mal quand même, et pour être avec lui. C'est pour ça que c'est toujours une affaire de communauté, si vous voulez, même s'il y a une personne qui souffre au milieu, il y a beaucoup de gens qui l'accompagnent.
Oui. Avec le profil de cette personne que vous accompagnez avec la caméra, qui se fait tatouer, qui vient, je crois, des États-Unis, de Los Angeles, qui est évidemment samoan d'origine, mais qui revient des États-Unis pour vivre ce rituel. Il a, je crois, une trentaine d'années et il veut appartenir toujours à la communauté de ses ancêtres.
C'est ça. Effectivement, on peut être samoan, samoane sans le tatouage, mais on l'est d'autant plus clairement, on l'affiche avec fierté, quand le corps lui-même dit « cette personne est passée par le processus qui fait de lui ou d'elle un samoan, une samoane ». Et de fait, je pense que dans la diaspora, c'est d'autant plus important de montrer ça sur son corps. Parce que même quand on n'est pas aux îles Samoa, on peut tout de suite montrer à quel groupe on appartient.
Ouais. Alors il y a une part de spectacle, de mise en scène dans tous ces rituels que vous montrez. À quel point la caméra a une influence sur les personnes qui participent à ces rituels ? L'ethnologue et réalisateur Jean Rouche était interrogé à ce sujet par Paula Jacques en 1975 sur France Culture.
On a une impression de liberté très très grande dans vos films, et puis on se dit quand même que la caméra doit produire un comportement des personnages.
C'est
par
sûr.
Exemple, vos acteurs, qui sont toujours merveilleux, cabotinent énormément. Enfin,
oui,
dans les comédies,
oui.
Vous avez, ce sont des cabotins de première classe.
Actuellement, nous sommes devant trois micros, on cabotine. Quand il y a des micros, on cabotine. Lorsqu'il y a une caméra de télévision, on cabotine. Lorsque le Giscard est devant la caméra de télévision, il cabotine.
Oui, alors
nous sommes quelqu'un d'autre.
Le
cabotinage est un art noble.
Mais le discours ethnographique, alors, là-dedans.
Le discours ethnographique ne doit pas éliminer le cabotinage. Pour moi, si vous voulez, cette fiction, qui est une fiction, est beaucoup plus réelle que la réalité.
Il la renforce, peut-être.
Les gens qui se montrent tels qu'ils ne se montreraient pas, cette espèce de striptease intellectuel un peu cruel, qui est effectivement le résultat de la caméra, cet œil de voyeur à long terme, parce qu'on ne sait pas très bien quand on verra les images, déclenche des phénomènes que nous connaissons mal, mais qui, pour moi, sont extrêmement fertiles, car ils révèlent tout un monde.
Jean Rouche, en 1975, sur France Culture. Anne-Sylvie Malbranque, c'est intéressant, cette idée que dès qu'on allume la caméra, le spectacle que l'on filme en est modifié.
Oui, c'est intéressant. Et en même temps, je me faisais la réflexion que les gens à qui nous avons parlé étaient d'un naturel déconcertant. Parce que moi, je les voyais tellement pris tout entier et concentrés vers ce rituel qu'il s'apprêtait à vivre, finalement, le cabotinage, non. Je ne l'ai pas ressenti
vous
comme ça.
Vous n'avez jamais ressenti l'impression qu'on vous jouait ce que vous étiez venu chercher?
Un petit peu les hommes papous dans la jungle, au début, quand on cherche un serpent, ils étaient contents de montrer leur talent. Mais sinon, je les trouve vraiment pris dans la réalité de ce qu'ils vivent et pas tellement cabotins.
Ouais. Il parlait aussi de l'œil voyeur de la caméra. Comment on se prémunit de ça ? Vous le dites, il y a certaines choses très intimes auxquelles vous assistez dans la vie de ces gens. Certains viennent se faire soigner pour un mal profond. C'est difficile de parler de ça en public. À quel moment on se retire ? On se dit, là, il ne m'appartient pas de filmer ça, de montrer ça.
Alors, on se retire quand ils nous le demandent. Absolument. Et Je pense que ça, c'est notre sensibilité qui nous le dicte. Mmh. Il est arrivé effectivement que moi je refuse de m'approcher d'une famille ou que je laisse à l'art de nos cadreurs et à l'art du zoom, voilà, le soin de prendre certaines images ou non. Je pense que c'est vraiment très important parce que c'est le pacte qui fait qu'on nous laisse filmer la plupart des choses si on accepte d'emblée de ne pas tout montrer. Mmh. Comme par exemple l'ouverture du tombeau à Madagascar. On nous a dit non, ces gestes-là sont complètement tabous, sacrés et secrets. Donc on a respecté ça. Ou au Pérou aussi, la jeune femme qui a accepté d'être filmée m'a dit c'est pour quelque chose de très intime, donc j'aimerais que tout ne soit pas montré, que tout ne soit pas dit. Moi, j'ai pas assisté à tout non plus.
Au Pérou, c'était pour une guérison avec un chaman. Et puis pour Madagascar, l'ouverture du tombeau, on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de cette émission. Vous allez nous emmener à la découverte de rituels dans des pays de cultures très différentes. Nous allons voyager de l'Amazonie à l'Inde en passant par Madagascar. Anne-Sylvie Malbranque est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter, à la découverte des rituels du monde.
Shattered in a thousand pieces, weeping in the darkest night. Hey there, you trying to stand up on your own two feet and stumbling through the sky. Hey you, when the lights go out and you're on your own. Make it through till the morning sun. Sing to the moon. Season, need to lay your burden down. Hey there, you drowning in a helpless feeling, buried on the deeper ground. Hey you, when the lights go out, it's a waiting game. Hey there, never gonna see a day when your world.
C'était Sing to the Moon, Laura Mvula sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
En général, on doit marcher longtemps pour trouver des fourmis. Attention à toi là, Anne-Sylvie.
Ah, ok, je fais attention. Enfin, tu me dis de faire attention, mais toi, t'es pieds nus.
Ouais, c'est ça.
Ils sont difficiles à trouver, ces fourmis.
Oui, très très difficile. Les anciens disent qu'il faut être un vrai chasseur pour trouver les Tucandera.
Ça leur fait pas peur, les flûtes? Ça les éloigne pas?
Si, justement, ça leur fait peur et c'est ça qui les fait sortir. Ah tiens, je crois qu'on vient d'en trouver ici.
Vous voici à présent en pleine forêt amazonienne, au Brésil, Anne-Sylvie Malbranque, avec un petit groupe d'Amérindiens à la recherche de fourmis redoutables, dont la piqûre, ou la morsure plus exactement, est redoutable. Ces fourmis qui vont être utilisées pour un rituel assez dur, racontez.
Oui, c'est un rituel de passage à l'âge adulte. Typiquement, ils ont tendance à être assez douloureux. Puisque, comme on disait tout à l'heure, il faut marquer une métamorphose, une transformation, et le but, c'est de montrer qu'on est un homme. Donc, on peut supporter des choses très douloureuses. Et là, en l'occurrence, on accompagnait un petit garçon de 13 ans, Jackson, qui était tout fluet et tout mignon et qui devait, de son propre, selon sa propre volonté, placer les mains dans deux gants tressés recouvert de ces fameuses fourmis qui délivrent un venin qui, paraît-il, est actif dans le corps pendant 24 heures.
Oui, donc c'est bien une piqûre hein, qu'elles font.
C'est une piqûre, oui. Elles mordent aussi, cela dit, mais ouais. Je crois que le venin, oui, passe par leur dard. Et donc là, on allait chercher les fameuses fourmis.
Et c'est une piqûre vraiment redoutable. Hein. Vous dites que ça a été évalué, ce serait 30 fois plus intense qu'une piqûre d'abeille.
C'est ça.
Cette piqûre. Il faut imaginer les gants dans lesquels le petit Jackson, 12 ans, va devoir mettre les mains. Des centaines, ou en tout cas des dizaines de fourmis ont été emprisonnées avec le dard qui pointe vers l'intérieur. Et Jackson, pendant ce rituel, va devoir mettre les deux mains pendant 5 minutes dans les gants. Il vous dit qu'il le fait. Alors, sa mère n'a pas voulu assister au rituel. Son père était contre. Lui prétend qu'il le fait de son propre chef, de sa propre volonté.
Oui, à mon avis, dans son cas, il y avait une double problématique qui est identitaire, parce que c'est un Indien qui vit en ville, qui n'est plus dans son village d'origine, qui veut donc montrer une appartenance à la communauté. Et il y a aussi une problématique psychologique, puisque c'est le premier fils de son père qui a 12 enfants avec 4 femmes différentes. Et on le sentait dans la façon dont il en parlait. Il y avait un côté « papa, regarde-moi et sois fier de moi ».
Je vous propose de l'écouter, Jackson, 12 ans.
Ma maman est préoccupée. Elle dit que je suis trop petit pour faire ça.
Et toi, tu penses que t'es assez grand ?
Oui, je pense. Tu sais, ce n'est pas parce que je suis petit que je dois laisser ma culture de côté.
On te dit qu'avec ce rituel, tu vas devenir un homme. Pour toi, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire avoir ma propre vie, être un bon mari, être un bon pêcheur et un bon chasseur aussi. C'est ça.
Et est-ce que tu es un peu anxieux à l'idée de ce qui va arriver, là, du rituel que tu vas faire ?
Non, ma famille est avec moi. Je n'ai pas de raison d'avoir peur.
Bon, plus tard, à l'approche du rituel, il vous avouera quand même qu'il commence à avoir un petit peu peur, Jackson. Son père aussi vous dit qu'il a peur. Cette notion de douleur, alors quand il va le faire, il va effectivement souffrir atrocement. À la fin, il ne peut plus bouger ses mains. C'est presque traumatique, hein. C'est un traumatisme, cette expérience. En plus, il doit le faire 20 fois pour que ça compte tout au long de sa vie. Donc, il met la main dans les gants, met le doigt dans un engrenage. Maintenant, il va devoir le faire 20 fois. Ça pose la question du consentement. Il est tout petit, 12 ans, il accepte, mais.
Oui, ça pose la question du consentement. Dans son cas, ça n'est plus une norme de cette culture, un passage obligé. Ça l'a été longtemps. Là, c'est lui qui réclame de le faire. Il y a d'autres cultures où on n'a pas tellement le choix, parce qu'on doit devenir adulte, sinon c'est la mort sociale. Donc ça n'est pas quelque chose que l'on peut envisager. Et ça, c'est une vraie question. Y a-t-il consentement dès lors qu'on ne peut même pas envisager de dire non ? Et je n'ai pas vraiment de réponse. Et la question se pose également dans le rituel en Éthiopie sur le fouettage des femmes.
Alors, venons-en. Alors, vous allez en Éthiopie, c'est un double rituel. C'est-à-dire qu'à la fois les hommes doivent sauter par-dessus les vaches. C'est encore un rituel de passage pour passer à l'âge adulte. Et puis, les femmes doivent, elles, pendant ce rituel, se faire fouetter. Mais racontez quel sens ça a pour cette communauté ?
C'est fondamental pour le lien entre une sœur et son frère. Elle montre, elle exhibe physiquement ce lien indissoluble qui les relie, parce que pendant que lui devient grand, que lui saute par-dessus les vaches, elle soumet son corps au cou des jeunes hommes initiés non mariés, ce qui est la fameuse cohorte à laquelle son frère va faire partie après avoir réussi le rituel. Et donc, il se joue là aussi une question fondamentale d'appartenance au groupe, puisqu'on crée quelque part le stigmate de la famille. Et on dit à son frère, moi j'ai donné mon corps, tu devras, toi, me promettre de me protéger.
C'est une sorte de pacte scellé dans le sang avec une cicatrice qui atteste de la signature entre ce frère et sa sœur.
Tout à fait.
Mais effectivement, dans l'histoire, les femmes se font quand même fouetter, ce qui peut heurter notre culture à nous et notre représentation de ce que doivent être les relations entre les hommes et les femmes.
Et ça nous heurte quand on détache les faits les uns des autres. Si on dit juste dans cette culture, il faut être leur femme. Non, ça n'est pas ça qui se joue dans cette culture. Les femmes ont besoin d'avoir la preuve physique de leur lien avec leur frère. C'est aussi une façon pour elles de montrer leur courage. Ouais. C'est-à-dire qu'elles disent, mon frère, je t'aime tant que je vais accepter de souffrir, parce que la dimension de la souffrance est tout à fait présente.
Alors, lors du tournage de ce film, va survenir un imprévu, quelque chose que vous ne pensiez pas filmer. Un représentant du gouvernement éthiopien va venir dans cette communauté et interrompre le rituel, parce que ce rituel, la loi aujourd'hui l'interdit, et qu'il entend bien faire respecter les lois de son pays, y compris dans cette communauté.
C'est ça. Et il a su que nous venions tourner, puisque nous, il nous fallait un permis en amont. Tout est tout à fait déclaré, clair. Et il arrive et il décide d'utiliser notre truchement pour empêcher ce rituel d'avoir lieu. Parce qu'il a peur qu'on rapporte des images en Occident qui soient des images de ce fouettage et qui soient des images qui disent « Regardez, en Éthiopie, il faut être leur femme ». Ça n'était évidemment pas notre but. Nous, ce qu'on voulait montrer, c'était la complexité du rituel dans son entier.
Alors, l'homme envoyé par le gouvernement intervient. Il met un terme à cette partie du rituel où l'on fouette les femmes. Kaya, donc c'est la jeune femme qui se fait fouetter et que vous suivez, est en larmes à ce moment-là. Pas parce qu'on l'a fouettée, mais parce qu'on l'empêche de se faire fouetter. Elle est très déçue et ça donne lieu à cet échange entre vous et elle.
Je dois t'avouer que je suis soulagée que ça se soit arrêté. Pourquoi ? Le fouet, c'est mal pour toi ? Ce n'est pas à moi de te dire si c'est bien ou mal, mais c'est douloureux pour moi de voir une femme se faire fouetter. Tu sais, chez nous, se faire fouetter, c'est une bonne chose. Dans la tradition, on ne peut pas le faire après le coucher du soleil. Là, tu vois, le jour tombe, donc c'est fini, je n'aurai eu qu'un coup de fouet.
Dans le livre, Anne-Sylvie Malbranque, vous racontez les coulisses de cette séquence et vous dites qu'elle vous fait mal au cœur lorsque aujourd'hui vous la revoyez, cette séquence. Pour quelle raison ?
Bien parce qu'en fait, j'ai dit par ailleurs beaucoup plus de choses que ce qu'on en a gardé dans l'épisode. Je lui ai dit notamment que j'étais fière d'elle et que pour moi elle avait montré cet attachement à son frère, tout un tas de choses. Et on avait sur place deux traducteurs locaux puisqu'on ne parle pas Amhar. Il passait à l'anglais dans notre oreillette. Donc on pensait savoir à peu près ce qui était dit, de même qu'on pensait que ce que nous disions était traduit. Et de retour à Paris, nous avons eu recours à une traductrice indépendante qui, elle, nous a dit « Attention, il y a eu un autre discours qui a été mis dans votre bouche et qui vous avait été transmis. » Et en fait, j'ai su après coup que ma jeune amie Kaya avait entendu sa copine Blanche lui dire « C'est mal ce que tu fais, il faut que tu arrêtes, il faut abandonner, ça n'est pas possible. »
C'est-à-dire qu'on vous a fait porter le discours du gouvernement, vous avez eu ce discours beaucoup moins nuancé que celui que vous lui avez réellement tenu, en lui disant « Moi ça me choque dans ma culture, mais c'est difficile pour moi de te dire ce qu'il faut faire, c'est pas à moi de te le dire. » Et en fait, le traducteur officiel vous a fait sermonner.
C'est ça.
Cette jeune éthiopienne, et vous vous dites, la relation que j'ai cru établir avec elle n'a jamais eu lieu.
C'est la précarité incroyable de ma position qui essayait de danser entre tous ces concepts très compliqués à gérer, très compliqués à faire comprendre, toutes ces précautions que j'ai prises pour lui dire que je respectais sa culture, que je respectais ses façons de faire, que je comprenais que moi j'étais un produit de ma propre culture, donc je détournais les yeux, parce que pour moi c'était douloureux, mais que je l'encourageais et je l'accompagnais là-dedans. Ça, elle n'en a rien entendu, elle n'en a rien su, elle n'en saura jamais rien. Et moi, ça me fait mal au cœur. Puisque... Ouais.
Elle est quand même difficile, cette position de l'anthropologue qui ne s'autorise pas à juger ce qu'il voit, parce que jusqu'où on relativise ? À quel moment on n'accepte plus ce que l'on voit ? Vous avez été confronté à ça sur votre terrain en tant qu'anthropologue. Au bout du deuxième jour, vous voyez une femme se faire battre à coups de bâton. Difficile de ne pas intervenir en se disant « Ah bah oui, mais personne ne m'a demandé de venir, là, je suis là, donc j'accepte les codes locaux. »
Et pourtant, il faut accepter les codes locaux, il faut les comprendre, il faut pouvoir savoir à quel moment la violence n'est pas légitime pour les locaux, et là, se permettre d'intervenir. Mais on n'est pas venu là pour ça. Moi, déjà, il faut se faire accepter, ce que vous disiez tout à l'heure par la communauté. De quel droit on va aller leur asséner des principes qui ne sont pas les leurs, qui sont nés à l'autre bout du monde, qui ne font peut-être pas tout à fait sens non plus pour eux. Mais d'un autre côté, c'est très très compliqué de voir des gens se faire battre ou sous ses yeux. Donc, moi, j'ai toujours, et c'est pour ça que j'essaie d'en parler dans ce livre, c'est très important pour moi, j'ai toujours essayé de creuser au maximum cette problématique sans jamais trouver de réponse.
Ouais.
Ouais, il y a vraiment une ligne de crête hein, là quand même. Voilà. Anne-Sylvie Malbranck, nous poursuivons notre voyage avec vous à la découverte des rituels du monde avec une escale en Inde dans un instant pour participer à la fête des couleurs. C'était Jacques qui chantait « Vous » sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
L'émotion de cette foule en liesse est palpable. Tous ses fidèles sont venus pour rendre hommage à Krishna. Mais c'est pourtant le prénom de son amante, Radhe, qu'il crie. Les dévots les plus chanceux parviennent à se glisser au pied de l'autel pour y déposer leurs offrandes. Les autres attendent d'être bénis par les poudres et les eaux colorées projeté au nom de Krishna.
Aujourd'hui, toutes les différences disparaissent sous les couleurs. Nous devenons tous égaux. Et c'est pour moi le plus beau jour de l'année. C'est ça, la magie de Holi.
Un nouvel extrait de la série Rituel du Monde, diffusé sur Arte en février dernier, présenté par notre invitée, l'anthropologue Anne-Sylvie Malbranck, qui vient tout juste de publier le livre Rituel du Monde aux éditions des Paysages. Et le livre permet de raconter cette fête des couleurs avec beaucoup plus de nuances que ce que l'on voit dans ce documentaire de 26 minutes. Dans quelle ville de l'Inde avez-vous vécu cette fête des couleurs Holi, hein, on parle de la fête Holi.
Oui, nous étions à Vrindavan, dans l'Uttar Pradesh, où il y a un bon million de personnes qui passent plusieurs jours à fêter Holi, ce qui veut dire concrètement à se lancer au visage des poudres de couleur, parfois des seaux d'eau croupie aussi, tout un tas de surprises, pour se souhaiter chance, prospérité, amour, optimisme pour l'année qui vient.
Ouais. Alors il y a une légende à l'origine de cette fête des couleurs.
Oui, c'est que Krishna est tombé amoureux d'une femme qui n'avait pas la même couleur de peau que lui. Et au pays des castes, donc de l'entre-soi, il n'est pas bon généralement d'être attiré par la différence. Et donc pour faire disparaître cette différence, on lance des couleurs. Et comme ça, tout le monde se meut dans une sorte de magma coloré où les distinctions ne sont plus différenciées.
Parce que la société indienne est organisée en castes, ça a été officiellement interdit ce système de castes, mais il a toujours cours dans la réalité des choses, avec les castes élevées, par exemple les brahmanes, et puis les castes d'intouchables, les Dalits. Vous allez rencontrer un Dalit sur le terrain, il s'appelle Bhagwan, et vous dites que tout dans son attitude a intégré, dans son attitude corporelle, a intégré le fait qu'il est un intouchable, qu'il est une caste inférieure.
Oui, qu'il est un petit, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant et extrêmement violent en même temps dans la façon dont les rapports sociaux sont vécus et donc vus par nous un peu de l'extérieur. Entre lui, le petit, le Dalit, et le Brahman que nous allons voir aussi, qui est dans toute la puissance, on va dire, de son corps de dominant. Ouais. Mais cela étant, les castes existent toujours en Inde. Ce qui est interdit, ce sont les sévices faits au nom des castes.
Pardon, c'est-à-dire qu'officiellement,
voilà. Mais c'est important parce que l'Inde, c'est un pays tellement compliqué. Moi, je suis toujours terrifiée à l'idée de faire des généralisations qui ne sont pas justes. Mais quand vous êtes là-bas, vous vous rendez compte que la caste est une réalité tout à fait présente et à laquelle.
Et quand on parle de sévices, il y a aussi des humiliations. Bhagwan, donc qui fait partie des intouchables d'une caste inférieure, vous raconte qu'une fois il a demandé de l'eau à un brahman, donc d'une caste plus élevée.
Et il lui a versé l'eau de tout en haut pendant que Bhagwan avait les mains comme ça repliées en écuelle pour récolter l'eau. Mais surtout que les deux ne se touchent pas parce que dans ce pays, la notion de pureté est fondamentale. Pour pouvoir reproduire l'ordre du cosmos, il faut qu'il y ait une caste de gens qui soient purs et donc qui ne touchent jamais ni la boue, ni la mort, ni rien. Mais pour ce faire, il faut bien qu'une partie de la population s'y colle en quelque sorte et donc qu'une partie de la population soit en permanence dans cet état de souillure.
Et dans ce contexte, la fête des couleurs prend tout son sens parce qu'à ce moment-là, on s'envoie des couleurs, toutes les castes n'ont plus cours, n'importe qui peut badigeonner n'importe qui avec toutes les couleurs, des poudres, des substances parfois pas très propres.
C'est ça. Et là, il y a un petit côté de revanche, si vous voulez, parce que là, Bhagwan a le droit de toucher le brahman, il a le droit de lui tartiner le visage avec de la poudre et il s'attend à ce qu'on fasse pareil pour lui.
Alors, ces couleurs, dans le documentaire, on apprend que chacune a une symbolique, donc on peut envoyer une certaine couleur pour envoyer de l'amour ou pour envoyer de la paix, de la prospérité. Bon, ça, c'est joliment présenté dans le documentaire. Quand on vous lit, on se rend compte que c'est une fête aussi très transgressive, qu'on s'envoie à la figure des choses parfois absolument dégoûtantes et qu'il y a vraiment ça peut être violent, c'est à la limite de l'agression parfois ce qui se passe dans les rues pendant la fête des couleurs.
Ah, moi je l'ai vécu comme une agression, absolument. Parce qu'en plus, je suis une femme et blanche, donc je suis la victime parfaite et les gens prennent plaisir à vous êtes un peu, comment dire, ils vous accrochent à leur tableau de chasse, on va dire. Voilà. Donc ils sont ravis de vous avoir atteint, et atteinte en l'occurrence, avec tout ce qui leur passe par les mains. Ça peut être aussi de la peinture indélébile, ça peut être de l'eau croupie, comme ça nous est arrivé. Moi, j'ai pris des poignées dans les yeux, donc ça pique, on est mal, on est généralement pieds nus parce qu'on sort d'un temple, il y a de la boue partout, il y a des gens, c'est une agression permanente. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup aimé Oli de ce point de vue-là, même si c'est quelque chose qui reste marqué en moi.
Oui, et puis on imagine que de tout on est dans ces conditions-là parce que là, pour le coup, la caméra, on l'oublie, on ne vous joue aucune mise en scène. Vous êtes au milieu de dizaines de milliers de personnes, toutes agglutinées les unes contre les autres. Ça doit être difficile et presque périlleux de tourner dans des conditions pareilles.
Oui, c'est périlleux. C'est périlleux d'ailleurs pour les caméras aussi, parce que le matériel doit être protégé contre ces pigments qui abîment tout. Et c'est périlleux de se retrouver, de ne pas se perdre, de ne pas effectivement se retrouver agressé par tous ces gens autour de nous. Ça a été très périlleux au matin dans le village de Bhagwan, parce que là, il y a des hommes qui me sont tombés dessus, et donc j'ai été extraite d'une foule qui effectivement, enfin, ça aurait pu très très mal tourner. Donc il y a quelques risques, oui, on va dire, mais ça c'est inhérent à toute. toute activité d'anthropologue, en fait. Ouais. Parce que...
Mais ce rituel, il sert de soupape, parce que à la fois, on l'a dit, c'est un peu la revanche des castes inférieures qui peuvent enfin être à égalité avec les castes supérieures, mais c'est pour que le lendemain, tout recommence comme avant. Finalement, ça maintient la société telle qu'elle est actuellement, c'est à ça qu'il sert.
Tout à fait, et ça inscrit la structure sociale dans l'ordre naturel, puisqu'on associe au lit au printemps. Mmh. Donc tous les ans, quoi qu'il arrive, ça reviendra. Donc vous, Dalits, ne croyez pas que vous allez pouvoir sortir de votre destin non plus, de la même façon.
C'est ça, les rituels sont là pour nous faire accepter des fois des hiérarchies sociales, parfois l'ordre des choses, par exemple. Et il y a des rituels dans toutes les cultures autour de la mort. Comment faire face à la mort des proches, comment la supporter. Chaque culture essaye d'inventer des rituels qui permettent d'affronter ça. À Madagascar, il y en a un particulièrement spectaculaire, c'est le Fama Dien, le retournement des morts.
Oui, sur les hauts plateaux, les mérinas ouvrent régulièrement les tombeaux, de manière tout à fait ritualisée, pour aller rajouter des langes, des lambeaux autour de leur mort. Mmh. Ils le font aussi pour pouvoir rapatrier les corps de ceux qui ne sont pas morts sur les terres de leurs ancêtres. Mmh. Donc il y a quelque chose de très très important dans l'idée de regroupement familial, si vous voulez. Vos ossements doivent être rapatriés là d'où vous venez.
Et cela se passe dans une ambiance vraiment festive.
Le corps du père de Jean est drapé dans son nouveau linceul. Puis sa dépouille est disposée sur les jambes de ses descendants.
C'est intéressant la façon dont vous vous asseyez avec votre père sur les cuisses. C'est important de faire ça ?
T'as Louis, hein ?
Avant, on s'asseyait sur ses genoux à lui. Mais désormais, c'est nous qui le mettons sur nos genoux.
Tu penses qu'il peut ressentir ça ?
Dans notre croyance, on pense qu'il nous regarde en ce moment. Et on pense qu'il est content de nous voir.
Alors c'est déroutant hein, pour notre culture, cette idée d'aller sortir le défunt de ce tombeau. Sur le papier, ça a quelque chose d'un peu terrifiant. Quand on voit les images, très honnêtement, les gestes sont très doux. Il se dégage beaucoup de sensibilité et c'est presque beau finalement. C'est cette scène que l'on pensait terrifiante dans un premier temps.
Oui, on oublie qu'il y a énormément d'amour dans ces gestes. C'est quand même une famille qui se retrouve. Et qui retrouve, là, c'était Jean qui retrouvait son papa.
Ouais.
Donc évidemment, il prend énormément soin de cette dépouille. Et en même temps, il la fait danser, il lui fait boire du rhum, il la fait vivre quelque part. Mais il est là pour lui rendre hommage. Il n'est pas là du tout, ça n'est pas un sacrilège. Donc comme vous dites, il y a une grande différence entre ce qu'on peut lire sur le papier et la façon dont on va l'appréhender en amont et la façon dont ça se déroule devant nos yeux.
Ouais. Comment vous avez fait, Anne-Sylvie Malbranque, en 15 mois, vous êtes arrivée dans 15 communautés, 15 situations différentes, avec des rencontres très fortes. Comment vous avez fait pour ne pas vous y perdre, pour pas vous perdre de vue?
J'espère, je me suis un peu perdue de vue. J'espère que j'ai réussi à me décentrer suffisamment pour accepter cette altérité, pour laisser l'ailleurs me guider, en fait. Ça a l'air d'être une formule, mais quand on doit faire ce genre d'exercice, je pense que c'est un principe méthodologique qui est important. Il faut vraiment laisser les autres parler et laisser les autres nous guider et laisser. Et puis, bon, moi, je fais ce genre de choses avec assez peu de préparation. J'y vais et je me dis, on verra bien. Et on est entouré de gens très bienveillants aussi. Mmh. Tant dans l'équipe que les gens qui nous accueillent là-bas. Donc, ça se fait.
Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui de ces tournages, de ces rencontres ?
Tellement d'émotions différentes, toutes très puissantes, qui se sont sédimentées. Si vous voulez, il y a les émotions sur le moment, ce qu'on vit qui est très fort, et puis il y a le fait de regarder les épisodes après, de les écrire, d'en parler, de les revivre, de les raconter. C'est la chose la plus riche qui m'ait jamais été donnée de faire. Et en même temps, j'ai beaucoup de nostalgie parce que je voudrais bien recommencer, je voudrais bien prolonger cette aventure. Mmh. Et j'ai beaucoup de curiosité envers les gens que je ne reverrai jamais. J'aimerais savoir comment ils vont. J'aimerais avoir des nouvelles. Parfois, c'est impossible. Il y en a avec qui je suis amie sur Facebook, donc on arrive à se suivre en quelque sorte. Mais sinon, il reste une grande frustration aussi parce qu'on n'a pu les accompagner que dans une petite parenthèse de leur vie. Et on a toujours envie d'en savoir plus. Enfin, moi, c'est mon côté curieux. Ça.
Et les auditeurs auront aussi certainement envie d'en savoir plus. Alors, on les invite à lire votre ouvrage « Rituel du monde », préfacé par Maurice Godelier, anthropologue, hein, avec qui vous avez travaillé. Le livre est paru aux éditions Des Paysages. Vous restez avec nous, Anne-Sylvie Malbranck, pour la dernière partie de cette émission. Dans un instant, nous repartons pour une nouvelle odyssée savoureuse avec Éric Birloez, qui nous emmène cet après-midi sur la route de la figue.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida poquito a poco, a poquito a poco.
Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche tu España. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido.
Lo hice por ti. Eso es. Lo hice por ti.
¿Cómo?
Y yo lo hice por ti.
Por ti, mami.
Yo lo hice por ti.
Vamos, vamos.
Lo hice por ti. Y yo lo hice por ti,
que me quiera.
Yo lo hice por ti.
Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate. Mientras todo seguís ahí mirando.
Lo hice por ti.
¿Cómo?
Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidar, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido.
Lo hice por ti.
Eso.
Lo hice por ti.
Dinamarca.
Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Porque me quiera.
Lo hice por ti.
C'était Un Veneno de Setangana et Nino de Elche sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée, comme toujours, Muriel Pérez.
Sens-moi ça, ça sent bon. Ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Bonjour Éric Birloez.
Bonjour Daniel.
Comme tous les lundis, nous vous retrouvons. Vous êtes sociologue de l'alimentation et chaque semaine, Éric, vous nous racontez le voyage d'un aliment. Aujourd'hui...
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un fruit que je trouve personnellement délicieux. Un fruit à la chair onctueuse et rafraîchissante, gorgé de sucre et de soleil. Un fruit issu d'un arbre aussi emblématique du bassin méditerranéen que l'olivier. Alors Daniel, vous avez bien sûr reconnu...
La figue.
La figue.
Mais je triche, j'ai le papier devant les yeux.
Alors, le figuier, c'est un des tout premiers végétaux que l'homme a domestiqué il y a environ 11 000 ans dans le croissant fertile. La figue et le figuier sont mentionnés dès les débuts de l'écriture. Vous savez, sur les petites tablettes d'argile mésopotamienne, comme sur les papyrus égyptiens. Tous les textes anciens témoignent de l'importance alimentaire, économique et symbolique aussi de la figue dans les premières civilisations de la Méditerranée et du Moyen-Orient.
Et alors d'où vient cette importance attribuée à la figue ?
Sur le plan alimentaire, d'abord, la figue sèche a une teneur élevée en sucre. Une seule poignée va fournir au corps beaucoup d'énergie. C'est la raison pour laquelle le figuier et son fruit symbolisaient l'abondance. Mais la figue était aussi un symbole de fécondité. La sève blanche qui s'écoule du pédoncule de la figue quand on l'accueille était autrefois assimilée au sperme. Par ailleurs, les figues ne nourrissaient pas que les humains. Les Égyptiens les utilisaient pour engraisser les oies et les Romains faisaient de même pour produire du foie gras. En latin, ce foie engraissé était appelé iecur ficatum, le foie de figue. Et c'est cet adjectif latin ficatum qui a donné à notre mot français foie. Donc, le nom de l'organe le plus volumineux du corps humain dérive directement du mot figue.
Incroyable. Alors, les figues n'étaient pas seulement utilisées pour produire du foie gras.
Non, bien sûr. En France, on les retrouve dans la cuisine médiévale. Une recette à la fin du XIVe siècle propose d'utiliser, je cite, les grosses figues de Provence rôties pour accompagner du poisson. Et puisque j'évoque le Moyen-Âge, je rappellerai qu'à cette époque, on mange les fruits au tout début du repas, pour des raisons liées aux croyances diététiques de l'époque. Mais à partir du XVIe siècle, les fruits vont commencer à migrer vers le dessert, vers la fin du repas, sauf deux fruits, le melon et les figues, qui eux vont rester consommés en entrée. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, les figues sont parfois mangées au début du repas, par exemple avec du jambon cru ou en accompagnement du foie gras, ce qui recrée dans notre assiette le lien linguistique que j'évoquais entre les mots foie et figue.
Ouais. Et alors sur le plan botanique, la figue est, je crois, un fruit particulier, non ?
Oui, alors déjà, la reproduction du figuier est biologiquement très complexe, je ne vais pas m'y attarder. Par ailleurs, pour les botanistes, la figue n'est pas un fruit, mais une infrutescence, c'est-à-dire une enveloppe renfermant des centaines de minuscules fruits. Ce sont les petits grains qui, dispersés dans la chair de la figue, crissent sous la dent. Alors au départ, la figue, c'est un bouquet de fleurs enfermé qui devient une corbeille de fruits. Mais bon, toutes les figues ne se ressemblent pas, il y en a de nombreuses variétés. Ouais. Et certaines en France portent des noms qui évoquent leur origine ou leur couleur. La négrone, la grise de Saint-Jean, la ronde de Bordeaux, le col de Dame Blanc, la figue de Marseille, à ne pas confondre avec la marseillaise, aussi appelée couille du pape.
Ah ouais.
Sans oublier la prestigieuse violette de Solliès dans le Var. C'est d'ailleurs de ce département, le Var, que provient l'essentiel de la production française. Mais une part importante des figues que nous dégustons dans l'Hexagone est en réalité importée de Turquie. Ce pays, c'est le leader mondial de la production de figues, devant l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, l'Iran, etc.
Alors sur le plan pratique, comment bien choisir les figues au marché, Eric ?
Eh bien, pour cela, Daniel, il vous suffit de retenir ce proverbe provençal qui dit que la figue doit avoir un habit de pauvre. Une peau grisâtre et fripée, voire déchirée. Un œil d'ivrogne. Une gouttelette doit perler de la tige du fruit comme une larme. Et un coup de dévote, une tête retombante. Bien, Daniel, j'espère que ce conseil pratique ne vous laissera pas mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire avec des sentiments mitigés, à demi-satisfaits, à demi-mécontents. Cette expression, mi-figue, mi-raisin, serait apparue à la fin du XVe siècle chez les marchands de Venise. Oui, parce qu'ils se méfiaient de la pratique frauduleuse des commerçants grecs de la ville de Corinthe, auprès desquels ils s'approvisionnaient, pour accroître leurs bénéfices. Les Corinthiens, ces gros malins, mélangeaient des morceaux de figues sèches, très bon marché, à leurs raisins secs qui, eux, bien sûr, étaient vendus très cher.
Ah oui. Et il y a d'autres anecdotes comme ça, des anecdotes historiques sur la figue ?
Est-ce que vous connaissez l'histoire rapportée par Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires ? Alors Dumas raconte que le responsable des pépinières du Jardin des Plantes de Paris avait confié à un domestique la mission de porter deux figues magnifiques à Buffon, le grand naturaliste du XVIIIe siècle. Mais en chemin, le valet ne peut pas résister à la tentation de manger un des deux fruits. Alors Buffon est surpris, bien sûr, de ne se voir remettre qu'une seule figue au lieu des deux qui lui avaient été annoncées. Il demande donc au domestique ce qu'il a fait pour ne lui apporter qu'un seul fruit, et le valet lui répond « Ben, je vais comme ça ». Et joignant le geste à la parole, il engloutit aussitôt la figue qui restait.
La figue, comment la mange-t-on ?
Eh bien, de multiples façons, fraîche et crue en dessert, bien sûr, alors telle qu'elle, en salade de fruits, avec un fromage blanc ou une glace. Sous cette forme crue, on la mange aussi dans des salades, on l'a vu, en entrée avec du jambon sec, ou aussi avec des fromages de chèvre frais. On peut aussi cuire la figue, bien sûr, pour confectionner des tartes ou des confitures, la servir gratinée ou rôtie avec du miel ou du beurre salé aromatisé de cannelle. Cuite, la figue accompagne aussi des plats salés, un magret, un filet mignon, une queue de lotte. Et puis Daniel, vous savez bien que les randonneurs qui vont de bivouac en bivouac glissent des fixèges dans leur sac à dos, car elles sont à la fois énergétiques et légères à porter. Et saviez-vous qu'à Nice, le séchage traditionnel des figues était réalisé entre des feuilles de laurier aux vertus aromatique et aussi insecticide.
Très bien, la figue évidemment pour le bivouac, c'est indispensable. Merci Éric Birloez. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Petite et grande histoire de légumes aux éditions Quae. Merci Éric, à la semaine prochaine.
À lundi Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.